Bonjour à tous, vous écoutez l'Écho du Felipe, un podcast du Festival du Livre et de la Presse d'écologie. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Juliette Rousseau. Elle vient nous parler du livre qu'elle vient de traduire de l'anglais canadien, Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde, de Carla Berkman et Nick Montgomery. Il est paru en janvier dernier aux éditions du Coma. Un livre qui se veut salvateur en cette période compliquée et propose de nouvelles perspectives pour les luttes de tous bords. Elle avait déjà amorcé cette réflexion dans son livre précédent, Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques. Il reparaît en poche en avril aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcières. Nous avons commencé par lui parler de cette suite logique entre ces deux ouvrages. Nous avons voulu savoir comment ce livre lui est arrivé entre les mains et qui sont Carla Berkman et Nick Montgomery.
Ce livre, il est arrivé entre mes mains à l'époque où j'écrivais mon propre livre Lutter ensemble. Clairement, je pense que le lien entre les deux, c'est une envie de mettre en question les pratiques d'organisation militante, la façon dont on noue des relations au sein des espaces de lutte, au sein des communautés de lutte, y compris de questionner qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que c'est des communautés de lutte, comment on les construit, enfin voilà. Donc le livre, il m'est tombé entre les mains à ce moment-là, donc quand il sortait aux États-Unis en 2016, et j'ai trouvé qu'il était vraiment... qu'il était très important et donc il y avait vraiment un enjeu à le rendre disponible en France. Carla Berkman et Nick Montgomery, en fait, c'est deux militantes anarchistes, donc ils viennent clairement de cette tradition politique, même si ils et elles font le choix de ne pas s'y inscrire selon une étiquette donnée, mais ils et elles assument clairement d'être dans un champ de politique radicale qui cherche à changer la société en remontant aux racines de la domination, de l'oppression. Moi, l'intérêt que je trouve à ce texte et la raison pour laquelle il me paraissait important de le rendre disponible en français, c'est notamment cette capacité à penser à la fois à inscrire sa pensée dans une reconnaissance des rapports de domination et à l'inscrire comme une pensée d'émancipation qui ne privilégiait pas la lutte contre une forme de domination ou une autre. Ils et elles sont clairement dans une interaction permanente entre des formes de pensée de libération que sont la résurgence autochtone, que sont la libération noire aux États-Unis, que sont l'antispécisme, la lutte contre la domination par l'âge. Donc il y a clairement une envie de penser toutes ces choses-là en interaction et d'inscrire les luttes à partir de la reconnaissance de ces différentes formes de domination. Ce qui... en tout cas, en 2016, n'était pas du tout une chose évidente en France. Alors aujourd'hui, on y vient un petit peu plus, mais ça reste une forme de pensée, je dirais, assez exceptionnelle. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans l'héritage en fait théorique dans lequel ils et elles s'inscrivent, c'est clairement un héritage philosophique. Leur grande source d'inspiration, c'est Spinoza, mais il y a aussi beaucoup de références à Deleuze. Et ce sont des héritages de pensée qui, en France, sont peu mobilisés au sein, on va dire, des espaces qui pensent l'émancipation à partir des oppressions structurelles. On a plutôt une division assez forte, en fait, en France, entre d'un côté une pensée matérialiste qui va peu s'intéresser à la philosophie, et de l'autre, une pensée qui s'inscrit plus dans l'héritage, justement, de ces philosophes et qui va assez peu maîtriser ou mobiliser une perspective du monde qui s'ancre, encore une fois, dans la reconnaissance de ces rapports de domination systémique. Donc c'est vraiment l'assemblage des deux qui me paraissait intéressant, y compris qui me paraissait pouvoir venir finalement titiller à certains endroits des divisions en France au sein de mon camp politique, qui serait plutôt le camp d'extrême-gauche, en partie autonome, mais pas que. Moi, j'avais envie de venir questionner ces divisions-là qui ont été longtemps considérées comme des divisions de fait et qui, peut-être, ne sont pas si pertinentes que ça. Donc, c'était vraiment ce fil-là que j'avais envie de tirer.
D'accord. Et justement, dans le travail de traduction, est-ce qu'il y a des termes compliqués à traduire, des formules particulières, ou est-ce que l'écriture est déjà inclusive en anglais? Est-ce que les termes sont éloignés du vécu en Europe?
Ouais, c'est pas évident dans le travail de traduction. Il faut réussir à tracer une ligne entre d'un côté l'envie de traduire certains termes qui sont aussi des concepts en fait, qui sont mobilisés par les autoristes et qui n'existent pas en France, et en même temps le fait de ne pas chercher à absolument tout traduire, parce que tout n'est pas transposable. Y compris, voilà, quand on a des concepts qui n'existent pas en France, c'est assez, assez compliqué de les traduire. Donc voilà, y a, disons que ça, ça correspond à un ensemble de choix qui sont faits, qui auraient pu être d'autres choix, de, à certains endroits, chercher à traduire ou à mobiliser des mots en français en essayant peut-être de pousser en fait l'apparition de concepts en France. Et puis à d'autres endroits, de dire, bah non, ça, c'est vraiment, ça correspond vraiment au contexte anglo-américain, anglophone, en tout cas d'Amérique du Nord, dans lequel il, le texte a été écrit, et donc ça n'est pas traduisible en l'état. Et effectivement, il y a aussi la question de l'inclusivité de l'écriture. En réalité, moi, j'ai passé mon temps à dire ça quand je traduisais ce texte. Je m'intéresse beaucoup, y compris bon, pour mon précédent livre, Lutter ensemble, je suis beaucoup allée chercher des ressources, donc des textes écrits en anglais. Et c'est vrai que... On a une, largement moins de possibilités avec le français. On a une langue qui est très contraignante. En tout cas, aujourd'hui, il est peu d'usage de chercher à la réinventer. J'espère que ça va venir. Mais aujourd'hui, quand on cherche à écrire en français d'une façon, j'aime pas beaucoup le terme inclusive, en tout cas d'une façon qui soit en prise avec la multitude d'identités qui sont aujourd'hui poussées au sein des luttes, on déroge forcément aux règles du français. Et aujourd'hui, la façon de le faire, ça reste, ça continue d'imposer d'autres règles. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire avec le texte là, en développant, en utilisant un certain nombre de règles qu'il est d'usage d'utiliser pour l'écriture inclusive. Mais c'est vrai qu'à certains moments, moi, ça m'a un petit peu frustrée. Y compris, encore une fois, pour rebondir sur ce que je disais avant, sur, on va dire, l'ouverture de possible en termes conceptuels. Finalement, l'anglais d'Amérique du Nord est beaucoup, beaucoup plus malléable dans ce sens-là, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour pouvoir pousser des concepts militants, ce qui va... En fait, il y a quand même une interaction assez forte en fait, entre la fluidité de la langue, entre la malléabilité de la langue et la possibilité de se doter d'outils. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on a en français, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles on aboutit souvent en fait à utiliser les termes en anglais, parce que trouver des traductions françaises ou parce que mobiliser nos propres créations linguistiques en France, c'est quelque chose soit qu'on trouve difficile, soit qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Et justement, le livre, il a été traduit en entier de A à Z ou c'est une sélection de textes ?
Non, le livre a été traduit en entier, oui.
Sur le titre de Joie militante. Il est assez interpellant. Lorsqu'on milite soi-même, et... il peut être pris comme une antithèse ou à l'inverse, comme une pouffée d'air. On a l'impression que c'est la solution. Qu'est-ce que la joie dans le livre et quel est son pouvoir ?
Alors, moi, j'ai eu très peur parce qu'effectivement, ce titre... En fait, on a choisi ce titre. Ce n'est pas le titre d'origine. Le titre d'origine dans la version publiée par IK Press, c'est « Militantisme joyeux ». Alors, nous, on a choisi de ne pas aller vers là. Et en fait, le titre qu'on a choisi... C'était la volonté première de Carla Bergman qui voulait l'appeler « Joie militante », qui n'a finalement pas été retenue par IK Press. La joie qui est mobilisée dans le livre, c'est la joie selon Spinoza. C'est-à-dire, contrairement effectivement à ce qu'on peut penser dans un premier temps, c'est absolument pas la joie au sens bonheur. C'est pas cette sensation de bonheur placide où tout va bien, tout va aller mieux et on sera en permanence dans le confort affectif, émotionnel, etc. La joie, en fait, c'est la possibilité, la capacité que l'on peut développer à habiter les situations et à habiter la transformation. Donc c'est un ensemble en fait d'émotions différentes. Ça peut être du bonheur, mais ça peut aussi être de l'inconfort, ça peut être du deuil, ça peut être de la tristesse. La joie, c'est vraiment en fait la capacité à être en prise. Et c'est la capacité à être en prise au sens être en interaction, être immergé dans l'ensemble de relations qui constituent notre habitat. Ça peut être la relation aux autres humains, humaines, mais ça peut être la relation au territoire, la relation au vivant autour de nous. Et tel que Carla et Nick décrivent la joie dans ce qui pourrait faire nos luttes actuelles, ça peut être aussi la capacité à lutter à partir d'un territoire. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est complètement ma situation aujourd'hui. Lutter à partir d'un territoire abîmé. Donc avec, quelque part en portant avec soi la notion de deuil, toute la tristesse qui peut aller avec, toute la colère qui peut aller avec. Donc c'est vraiment cette définition-là. Au-delà de ça, la capacité à habiter les situations comme il et elle la défendent, c'est aussi, et je pense que c'est là que ça vient critiquer quelque part assez fortement des postures militantes, c'est aussi la possibilité, ou en tout cas la capacité à ne pas chercher à contrôler l'issue des situations, à ne pas chercher à rentrer tout de suite les situations dans des cases, mais plutôt à reconnaître aux luttes aux dynamiques collectives la possibilité de nous emmener dans des endroits que l'on n'aura pas pu prévoir que l'on ne peut pas contrôler. Et en ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vient vraiment mettre en question cette posture militante très très répandue dans l'extrême gauche qui consiste à chaque fois qu'une situation nouvelle apparaît, qu'une nouvelle lutte, que quelque chose de nouveau apparaît, à chercher à le catégoriser, à le faire rentrer dans nos analyses, dans nos grilles théoriques, pour pouvoir dire où il va, et le plus souvent pour pouvoir dire il ne va pas au bon endroit, il ne va pas dans la bonne direction. Donc la joie militante, c'est aussi la critique de cette posture-là.
Et d'ailleurs, le terme qu'il a utilisé pour parler du militantisme actuel, c'est plutôt le militantisme rigide. Pouvez-vous nous dire d'où vient le terme et est-ce qu'il correspond vraiment à une certaine réalité ?
Alors, le militantisme rigide, c'est le phénomène que Nick et Carla essaient de cerner dans leur livre. C'est un phénomène, ils et elles le disent, et je pense que c'est important de le redire, c'est un phénomène diffus qui peut en fait apparaître dans n'importe quel espace militant. Et donc, un des périls, en tout cas, à essayer de le définir, et ils et elles le disent assez fortement, c'est que si on peut tomber dans un certain écueil qui serait de dire le militantisme rigide, c'est ça, et donc édicter un nouveau code de conduite. Or, en fait, plutôt, ce que défendent Carla et Nick, c'est d'abolir les codes de conduite et de chercher plutôt en fait à habiter les situations dans leurs spécificités contextuelles. Et donc de dire en fait, il n'y a pas de code de conduite, il n'y a que ce qu'on peut élaborer collectivement à un moment donné, dans un endroit donné. Et je pense que c'est important de le dire parce que le pire, ce serait ça. Le pire, ce serait d'aboutir à dire telle et telle attitude, c'est du militantisme rigide, alors que regardez, nous, la joie, on a compris ce que c'est. Non, ça ne fonctionne pas. Donc le militantisme rigide, il et elle essaie d'en trouver trois sources, enfin en tout cas nomme trois sources différentes. Donc ça va rebondir un petit peu sur ce que je disais tout de suite, mais c'est en gros il y a notamment l'héritage de la théorie, ce que je disais là maintenant, l'espèce d'idée, enfin en tout cas de l'idéologie surplombante, et cet héritage très fort des luttes marxistes. Selon lequel on a une espèce d'avant-garde éclairée qui est en capacité de comprendre le monde et de comprendre comment faire advenir la révolution et qui va à un moment donné transmettre son message plus largement. Moi, je vois un écho très fort là-dedans à des postulats écoféministes. Je pense notamment à Starrow qui dit des choses très similaires sur l'idée du grand homme. Le grand homme, on peut l'appeler Marx, on peut l'appeler Freud, qui à un moment donné comprend et puis l'avant-garde autour de lui éclairée qui elle aussi comprend et qui va ensuite pouvoir... Bon, je pense que vous comprenez assez bien ce que je veux dire. ça, c'est une première source qui est identifiée. La deuxième source qui est identifiée, c'est le moralisme, notamment sous l'influence de l'Église catholique. Et donc, c'est tout ce qu'on va retrouver, en fait, et qui pénètre encore aujourd'hui le tissu social. Et donc, c'est cette idée que pour pouvoir être, entre guillemets, un ou une bonne radicale pure, il va falloir être dans un exercice constant de débusquer d'impuretés qui peuvent être compromission avec le capitalisme, qui peuvent être patriarcat, racisme, validisme intégré et que l'on va reproduire par un mot, une attitude, etc. En gros, c'est ce comportement qui est vraiment très très répandu aussi, je pense, qui consiste à débusquer chez les autres ce qui est moralement répréhensible et qui viendrait dire, et c'est par là même en fait qui débusque, hein, qui est le bon prêtre ou le bon curé rouge qui va débusquer chez les autres les erreurs, fait preuve par là de sa radicalité. Donc ça, c'est la deuxième source. Et la troisième source, je pense que c'est beaucoup lié au travail de Carla qui depuis longtemps milite contre l'école, en fait, contre la scolarisation et contre la domination des adultes sur les enfants. L'apprentissage par l'école et notamment cette idée que sur nous la charge d'être en constante amélioration, d'être en constante évaluation. Et donc, on est toujours aussi en évaluation de soi et des autres. On cherche en permanence des grilles d'évaluation qui vont nous permettre de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, ces trois sources-là se font écho les unes aux autres. Et elles sont parmi en fait, les pistes qui permettent de comprendre ce qu'est le radicalisme rigide. Dans l'ensemble, moi, je dirais que peut-être pour le dire plus simplement, le radicalisme rigide, c'est concrètement ce qui fait que nos milieux d'extrême gauche sont aussi élitistes, aussi peu accessibles, sont aussi, je pense qu'on peut le dire comme ça, sont aussi rigides aussi, aussi peu tournés vers la spontanéité, aussi peu en capacité d'accueillir tout ce qui vient les déranger, tout ce qui vient les questionner, tout ce qu'ils ne connaissent pas, tout ce qu'ils ne sont pas en capacité d'appréhender.
Mais du coup, la question suivante correspond parfaitement. C'était justement comment dépasser nos peurs, nos hontes, nos impuissances et aller au-delà de la fragilité masculine, blanche, hétérosexuelle, valide, colonisatrice et autres.
Alors, c'est compliqué parce que Joie Militante n'est pas un manuel. On a déjà eu des retours de personnes qui nous disaient, mais comment? Enfin, en gros, nous, on s'attendait à un manuel pour que ça se passe mieux. Et bon, ça n'est pas ça. C'est plutôt une invitation à la réflexion. C'est même clairement une invitation à la réflexion. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je pense que c'est important. Comment dépasser ça? Encore une fois, il n'y a pas de manuel. Je pense qu'il y a une invitation dans Joie Militante à militer à partir de qui on est. Je crois qu'elle est intéressante parce qu'elle est écrite par deux personnes qui sont des personnes blanches, donc des descendants de colons dans un contexte de colonie de peuplement. Donc, ils vivent sur une terre qui n'est pas la leur, non seulement qui n'est pas la leur, mais qui est une terre au demeurant, en tout cas, dont ils sont les descendants des personnes qui l'ont occupée et qui ont massacré les personnes qui l'habitaient. Donc, elle est, en fait, milite à partir d'un endroit qui est quand même, on va dire inconfortable et qui ne revêt pas une légitimité évidente, quoi. Je crois, encore une fois, je ne crois pas qu'il y a de solution dans le livre à cet endroit-là. Je crois qu'il y a plutôt un ensemble d'invitations à se poser des questions. Et c'est ça que je voulais dire par une invitation à la réflexion. Des choses que je trouve vraiment intéressantes et que moi, aujourd'hui, dans mon travail de militante, mais aussi de formatrice dans des espaces militants, ou en tout cas de formatrice, personne qui cherche à faire passer des idées, j'ai vraiment envie de défendre ça. C'est qu'en fait, ils invitent vraiment à une posture qui assume le questionnement. Et donc, il y a tout un passage du livre là-dessus sur l'idée qu'en fait, on cherche systématiquement à établir des affirmations, des analyses complètes du système et de la façon de le défaire. Pas plus souvent du système que de la façon de le défaire, d'ailleurs, malheureusement. Et en fait, Nick et Carla convoquent vraiment cette idée que ce qui nous fait avancer, c'est le fait de poser des questions ouvertes. Et donc, d'assumer, de pouvoir. Et je pense que là aussi, c'est vraiment dans toute cette posture qui cherche à pousser, il y a vraiment cette idée de pouvoir avancer en posant des questions ouvertes et en acceptant qu'on ne va pas, et voire même qu'il n'est pas forcément désirable de pouvoir y répondre. Maintenant, c'est les questions qui nous habitent, c'est les questions avec lesquelles on doit avancer. Et moi, ça me fait beaucoup écho, notamment sur mon travail précédent avec Lutter Ensemble, parce que dans Lutter Ensemble, tout ce que j'ai cherché à faire, c'était de donner à voir un ensemble de pratiques militantes qui cherchent à être emprises sur les rapports de domination. Il était bien clair pour moi que là aussi, l'idée, c'était pas d'édicter un manuel, parce qu'il n'y a pas de solution. S'il y avait une solution, on n'en serait pas là aujourd'hui, clairement. Il n'y a pas de solution, il n'y a que des tentatives contextuelles qui doivent en continu, en fait, être questionnées, avancées, qui sont en prise là aussi. Et donc, là où ça me parle, c'est que, effectivement, je pense que cette idée d'habiter avec des questionnements qui doivent systématiquement évoluer, je crois que c'est. Et pour moi, c'est la condition nécessaire d'élaborer des luttes qui sont en prise sur les enjeux de libération et sur les questions de domination. À partir du moment où on est systématiquement pris dans un ensemble d'oppressions systémiques diverses et variées, les pratiques en prise qu'on va devoir pouvoir élaborer ne peuvent être que des questionnements. Si un jour quelqu'un arrive en disant « j'ai la solution, ça se passe comme ça », je pense qu'il faut s'en méfier, vraiment.
Mais d'ailleurs, c'est dans le livre, c'est Richard Day qui utilise le terme de responsabilité inépuisable, mmh. En disant qu'en fait, on n'a jamais fini de faire le tour et qu'on a beau avoir l'impression d'avoir toutes les solutions, mais elles ne seront jamais toutes là. Et je trouvais ça vraiment super intéressant.
Mais c'est, pour moi, ça fait partie donc dans les éléments aussi vraiment intéressants et peu mobilisés dans le contexte français, on va dire. Il y a ce que Nick et Carla appellent des notions communes. Alors, l'idée de notion commune, ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire, c'est pas des choses qui sont écrites dans le marbre. On peut pas dire, ça ne peut en aucun cas être des injonctions. C'est des choses qui peuvent être créées par une culture collective et alimentées en continu pour pouvoir exister. Et donc, dans ces notions communes qu'il et elle cherchent à défendre, il y a la notion de responsabilité et la notion de confiance. Et donc, la notion de responsabilité, pour moi, c'est pareil. Là aussi, ça renvoie à des concepts qui existent dans les milieux anglo-saxons qui n'existent pas en France, c'est le concept de accountability, l'idée de rendre des comptes. C'est exactement l'idée de responsabilité. Ça, on n'a pas ça, on n'a pas du tout ça dans les milieux militants français. Donc, c'est effectivement cette idée que, en s'engageant dans un espace de lutte, on engage notre responsabilité individuelle et collective, et ces responsabilités doivent pouvoir être questionner, être pointé du doigt à certains moments. Et après, se poser la question de savoir comment on les pointe du doigt. Mais ça veut dire, on ne devrait pas, en tout cas, on ne devrait pas pouvoir s'engager dans ces espaces, même si la formulation n'est pas bonne, mais en tout cas, il faut pouvoir engager cette responsabilité et il faut pouvoir, en fait, être des êtres responsables les uns vis-à-vis des autres, responsables de ce qu'on met en place, responsables de ce qu'on génère, etc. Et pour moi, c'est une politique, enfin, c'est une perspective très intéressante dans la lutte contre les rapports de domination, parce que notamment tout ce qu'on appelle la neutralité blanche, la neutralité des hommes, ou l'idée d'innocence des blancs, l'idée d'innocence des dominants, en fait, justement, la notion de responsabilité, elle vient dire non, il n'y a pas d'innocence, en fait. Il n'y a jamais d'innocence dans cette société, il ne peut pas y en avoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour venir questionner ça et venir le remettre comme un enjeu fondamental à construire des relations qui soient des relations, des communautés de lutte, des territoires qui soient des endroits d'émancipation, quoi. Et sur l'idée de la confiance, là aussi, c'est très intéressant parce que ça vient, pareil, questionner beaucoup nos pratiques militantes. À partir des expériences de Carla dans on va dire la lutte contre la domination par l'âge et les tentatives de construire des espaces d'émancipation pour les enfants. Il y a vraiment cet enjeu de confiance. C'est comment est-ce qu'on donne la confiance a priori? Comment est-ce qu'on sort de cette idée qui est très ancrée dans notre culture et qui est vraiment liée à l'histoire du capitalisme, de la confiance, c'est quelque chose qui doit se gagner pour au contraire assumer, affirmer que non, on donne notre confiance a priori et ensuite on l'alimente. Et donc, il est à l'explore vraiment les possibles que ça ouvre. C'est pareil, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Il y a à Bordeaux le rôle de l'allié, et entre autres dans les luttes autochtones, mais celui-ci n'est pas toujours bien accueilli. Pourriez-vous nous en dire plus?
Oui, il y a beaucoup d'échanges avec notamment avec deux militants, militantes autochtones sur la place des alliés. Bon, mais moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup écho à des choses que j'ai pu mettre au travail dans Lutter Ensemble, en tout cas des interactions que j'ai pu avoir sur d'autres rapports de domination. Moi, je dirais en tout cas, pour essayer de le résumer, que ce que je pense que le fil qu'il et elle tire, c'est de dire qu'il y a vraiment la nécessité de consolider des luttes, des territoires et des mondes à partir de choses ancrées. Et donc, en fait, les potentielles alliances qui peuvent se faire, elles vont se faire entre personnes qui sont ancrées. Récemment, je suis journaliste à côté, j'ai fait un entretien avec une militante autochtone au Brésil, et elle parlait exactement ça, elle parlait du fait d'être enracinée, de la nécessité en fait pour toutes et tous de trouver une forme d'enracinement, et que c'est vraiment l'enracinement qui peut prévenir tout ce qui va être de l'ordre de l'accaparement, de l'appropriation, etc. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui est tiré dans les deux fils. Après, il y a ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le livre qui le dit, mais il y a vraiment un enjeu aussi à retrouver des savoir-faire communautaires. En tout cas, il y a une interaction possible, je crois, entre cette volonté de s'enraciner, de retrouver des savoir-faire communautaires et le soutien à des luttes au sein de cultures qui n'ont jamais perdu ces savoir-faire communautaires et qui continuent de lutter à partir de cela.
Et justement, oui, tu le rappelles souvent, mais tu l'avais déjà abordé dans ton livre précédent. Et justement, quel a été le retentissement et l'accueil en France directement après ton livre?
C'est difficile à dire. Je dirais plusieurs choses. Je dirais que je crois qu'il a beaucoup circulé dans des espaces militants, y compris moi. J'ai fait une grosse tournée, beaucoup de présentations, etc. Ça m'a confirmé vraiment très fortement. C'est quelque chose que j'écris dans le livre et je savais, mais non. Qui peut-être n'était pas aussi fort pour moi à ce moment-là, ça m'a vraiment confirmé le fait que dans les espaces mixtes, du point de vue du genre, très très majoritairement, en fait, le livre semblait résonner, faire écho, etc., chez les personnes qui ne sont pas des mecs cis. Vraiment, ça a été assez clair à chaque fois. Je pense que dans les présentations, j'ai pu observer à certains moments que ça générait une forme de malaise. Alors même que je crois que j'ai toujours eu une attention à ne pas faire une présentation morale, à ne pas venir dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais plutôt à chercher à ouvrir des possibles en termes d'action, en termes d'organisation, en termes de construction des relations, etc. Mais en fait, puisque ça venait sans doute questionner le statu quo d'un certain nombre d'espaces militants, c'était pas toujours bien accueilli. Et souvent, en fait, quand dans un espace un peu rigide, un peu fermé, ça faisait écho, c'était quasiment toujours à des meufs. Après, dans des espaces qui étaient déjà plus en prise à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui, ce sont, encore une fois, en fait, les choses ont beaucoup changé, même si ça fait pas si longtemps, parce que mon livre est sorti en 2018. trois ans plus tard, je pense que dans les espaces militants, il y a quand même eu une augmentation de cette prise de conscience, une multiplication des espaces qui sont pris sur ces questions de domination. En tout cas, à cette époque-là, ils étaient moins nombreux. Disons que dans les espaces féministes et ou antiracistes, composés de personnes qui se situent à des endroits, ont des expériences en tout cas de la domination multiple, ça a toujours été accueilli d'une façon finalement beaucoup plus saine, au sens, en tout cas, de la façon, avec l'intention que moi je mettais derrière le livre, c'est-à-dire comme un outil de travail, avec certaines choses qu'il apporte, d'autres qu'il apporte pas, mais un outil de travail. Et moi, c'était vraiment comme ça que je l'imaginais. Et de ce point de vue-là, je dirais que la conclusion que je tire aujourd'hui, alors le livre va ressortir, on verra ce qui se passe à ce moment-là, mais une des conclusions que je tire, c'est qu'on a vraiment un énorme travail à faire, je crois, dans les milieux militants, dans les luttes en France, autour de la notion justement de mettre au travail nos pratiques de lutte, de questionner nos façons de faire, questionner nos façons de nouer nos relations, etc. Et c'est un travail qui encore aujourd'hui est majoritairement invisibilisé, informel et en fait très majoritairement pris en charge par les meufs et par les personnes qui ne sont pas des mecs. Très clairement, c'est parce que c'est un travail de soin en fait. Et c'est un travail de soin qui est encore aujourd'hui perçu comme assez peu politique. On est encore dans une culture militante qui, très majoritairement, pense que c'est la théorie, que c'est le discours, que c'est l'action publique qui vont faire les pratiques militantes et pas les relations et la façon dont on les construit, en gros.
Oui, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, ton livre. C'était vraiment, enfin, je trouve ça super intéressant. Justement, tu parles encore dans la préface, cette fois-ci, de ton parcours militant, de la fatigue, la puissance, enfin, de tout un mélange d'émotions et d'affects qui agissent sur ta manière de militer et sur notre manière même, en général, de militer. C'est également le cas chez de nombreux militants, et pourtant, c'est souvent un angle mort, comme tu le disais maintenant, qui est peu interrogé. Et pourquoi ?
On peut faire plusieurs hypothèses sur le pourquoi, et qui seront probablement toutes valables. Je pense y compris à Nick et Carla, alors je ne me souviens plus exactement, je ne sais pas si j'ai le livre sous les yeux, qui au début du livre essaie de nommer les racines du militantisme rigide, et disent... En gros, c'est autant le patriarcat que la suprématie blanche, que le rapport à la théorie, que une domination de classe, que... Enfin voilà, on peut trouver une multitude d'origines. Moi, en tant que féministe, j'ai tendance à penser, y compris en tant que féministe qui pratique des espaces féministes dans lesquels les questions d'affect sont centrales. Et par ailleurs, moi, je pense que j'ai vraiment... c'est le féminisme sous sa forme la plus récente, en fait. C'est avec le renouveau des mobilisations féministes de ces dernières années que j'ai pu retrouver des espaces où, y compris sans le formaliser toujours ou sans avoir à en parler, on a quand même une capacité à mettre au centre de nos pratiques militantes le soin des unes aux autres, le fait de partager d'autres moments, le fait de partager beaucoup d'affect, en fait. Donc, je vois quand même un biais patriarcal là-dessus, sur cette difficulté à, encore une fois, parler des émotions, parler de l'affect, à penser systématiquement que la lutte doit être faite. C'est un petit peu ça, hein, c'est la lutte des guerriers. Il faut des guerriers. Et bon, quand on regarde un petit peu dans les faits, c'est une des difficultés sur des luttes, je pense par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où j'ai vécu. En fait, une des conséquences de cette incapacité à poser la question des affects et à poser la question des traumas, à poser la question de tout ce qui peut rendre difficile le fait de lutter, c'est clairement qu'au final, les personnes qui vont être le plus en avant de la lutte, le plus porteuses de la lutte, sont les personnes qui ont... le moins de difficultés, et ben il y a pas à tortiller du cul. Les personnes qui ont moins de difficultés dans cette société, c'est des mecs blancs cis hétéros. C'est quasiment systématiquement ça. Et c'est quand même assez flagrant, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on lutte ? Moi, c'est des questions, mais même pas seulement lutter, c'est quand on essaie de faire des trucs collectifs, y compris, par exemple, moi, j'en fais dans le travail, avec le journalisme ou avec l'édition. Ou comment est-ce qu'on fait à partir de groupes de personnes qui ont vécu du racisme, du sexisme, des agressions sexuelles ? Et en fait, ces choses, oui, elles nous impactent. Oui, elles font qu'effectivement, au quotidien, on deal avec ça. Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu, mais primordial, à repenser la façon dont on construit les luttes en reconnaissance de ça. Et ça n'est pas le cas dans une majorité d'espaces, parce qu'encore une fois, c'est perçu comme ça va nous ralentir, ça va être chiant, c'est pas politique, c'est voilà. Donc, Et je dis pas par ailleurs que les espaces de lutte doivent être des espaces de soins, au sens, c'est pas les espaces qui vont résoudre les traumas. Je pense que, y compris, c'est une lutte que d'envisager quels peuvent être les espaces, quelles peuvent être les ressources collectives pour ça. Mais il faut qu'on prenne en considération le fait que ces choses-là existent dans nos espaces.
Je suis tout à fait pour. Du coup, je vais terminer par une dernière question qui va plutôt rentrer dans l'actualité. Comment faites-vous dans ce moment justement très compliqué pour vivre à la fois individuellement et collectivement, pour garder espoir dans le changement sociétal et tout ça?
Je vis en collectif, donc ça change beaucoup, beaucoup de choses dans mon rapport à la situation. Je pense que... Et j'habite en collectif à la campagne, donc ma façon de... Pour moi, l'expérience de la pandémie et de l'isolement n'a rien à voir avec l'expérience d'une personne qui vit seule en ville, par exemple. Je pense que c'est vraiment fondamentalement différent. Donc, je suis beaucoup moins exposée dans mon mode de vie actuel à tous les impacts en termes de santé mentale que peut avoir la pandémie, je pense. Donc, ça, c'est... Après, pour moi, la pandémie, c'est vraiment une préfiguration de tout ce qui nous arrive et qui va continuer de nous arriver toujours plus fort dans les temps à venir. Et donc, le choix de vivre à la campagne et en collectif, c'est pour moi, c'est vraiment un choix d'autodéfense, en fait. C'est un choix d'autodéfense pour pouvoir m'en sortir le mieux, tant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Avant tout sur le plan affectif, mais le plan matériel compte aussi. Par ailleurs, je suis mère, donc forcément, ça aggrave encore. En tout cas, ça rend encore plus important, ou ça projette encore plus loin, en tout cas, en termes de résistance. Et pour moi, c'est la seule condition possible. Au-delà de ça, je dirais que récemment, je suis partie, j'étais au Brésil pendant 2 semaines pour faire des reportages avec une collègue journaliste sur l'héritage politique de Marielle Franco, l'élue noire bisexuelle issue d'une favela qui a été tuée en 2018, juste avant l'élection de Bolsonaro. Ça paraissait complètement fou au début d'aller au Brésil et puis en ce moment. Et en fait, il y avait vraiment un enjeu. Pour nous, c'était vraiment fondamental et ça continue de l'être, d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour documenter aussi quelles sont les résistances face au fascisme dans différents endroits du monde à un moment où le fascisme semble toujours plus proche de nous ici. Il y a vraiment un enjeu à aller documenter ces résistances et c'est aussi une façon quelque part de... sans nier que la pandémie existe, sans nier que les déplacements doivent être faits avec énormément de précautions, etc., parce que c'est évidemment le cas, mais c'est aussi une façon de dire cette pandémie ne doit pas nous arrêter d'agir sur ce qui est en train de se passer, d'essayer de chercher à, encore une fois, moi c'est vraiment comme ça que je vois aujourd'hui mon travail de journaliste, de documenter à des endroits où on va en avoir absolument besoin de sous-inspiration, d'écho, de comprendre comment faire avec cette période et de voir ce qui nous lie à d'autres endroits du monde comme le Brésil par exemple. Donc ça pour moi c'est aussi une façon de survivre à cette période, c'est de me prouver à moi-même et de travailler d'une façon qui fait que cette période existe, elle est là, elle nous contraint, mais elle ne doit absolument pas nous arrêter de faire des choses. Et en ce sens-là, je vois vraiment par exemple un lien avec la répression, c'est aussi la répression depuis des années dans mes milieux politiques, c'est quelque chose qui nous occupe quasiment constamment parce qu'il y a toujours des personnes qui se font arrêter, des suites, des procès, etc. Comment est-ce que la répression doit nous amener à être plus vigilants, mais en même temps, surtout pas à nous arrêter d'agir, à nous arrêter de lutter, de travailler dans le sens d'un changement social.
Ben merci beaucoup pour ces notes d'espoir qui rassurent.
Merci pour l'interview.